Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour. Le procès historique des attentats du 13 novembre 2015 entame sa deuxième journée à Paris. 20 personnes comparaissent devant la justice, parmi elles le seul terroriste survivant. Depuis 2015, les attentats djihadistes ont fait de nombreuses victimes en Europe et selon les spécialistes, la menace perdure. D'autant que parmi les terroristes, beaucoup étaient connus des services de police. Plusieurs, on va le voir, suivaient des programmes de déradicalisation. Le suivi des djihadistes, la prévention du basculement idéologique sont des enjeux essentiels. Et on en parle aujourd'hui avec Marc Ecker, qui est directeur de recherche et de valorisation à l'Institut français des relations internationales. Bonjour Marc Ecker.
Bonjour.
Vous avez écrit avec Elie Tenenbaum « La guerre de 20 ans » aux éditions Robert Laffont, « Djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle ». Et vous êtes aussi l'auteur d'une évaluation des programmes officiels de déradicalisation en France. En un mot, Marc Ecker, vous avez salué des résultats rassurants alors qu'on entend souvent dire que la déradicalisation est une mission impossible. Pourquoi ?
J'ai été prudent dans mon évaluation. J'ai dit que les résultats que j'ai pu observer étaient effectivement en un sens rassurants, mais qu'il fallait rester très prudent par rapport à ces résultats, avoir davantage de recul et puis les prendre pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que j'ai évalué essentiellement un programme, le programme PER, qui existe depuis 2018 et qui ne concerne pas jusqu'à présent ce qu'on appelle le plus haut du spectre de la menace. Donc ce ne sont pas les personnes a priori les plus dangereuses qui ont été orientées vers ce programme, même s'il y avait quand même des revenants de Syrie. Et sur les personnes que j'ai pu étudier, il n'y avait aucun cas de récidive. Maintenant, il faudra refaire ce travail d'ici quelques années pour voir si, effectivement, on en reste à des résultats aussi rassurants ou si il peut y avoir un ou plusieurs cas de récidive. Mais dans tous les cas, je pense que c'est un des points très importants. Il y a eu effectivement en Europe plusieurs cas de récidive venant de personnes qui étaient passées par des programmes de déradicalisation ou de désengagement. Et en général, ça crée beaucoup d'émotions, ce qu'on peut comprendre. Et on a tendance à, si je puis me permettre l'expression, jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire déclarer que ben non, ça ne marche pas, c'est la preuve que ça ne fonctionne pas et qu'il faut arrêter ces programmes, que c'est extrêmement naïf et autres. Et en fait, c'est un des rares domaines où quand on a un cas d'échec, on dit que le programme dans son ensemble ne fonctionne pas. Dans les autres domaines de la vie, enfin, je peux penser à des échecs en termes de médicaments, on ne va pas dire que c'est l'échec général de la discipline. Et je crois que sur la déradicalisation et le désengagement, il faut essayer aussi de prendre un peu plus de recul et de voir pourquoi ça a échoué sur les personnes qui éventuellement vont récidiver. Mais pour le gros des individus, en fait, il n'y a pas de cas de récidive.
Vous venez de parler de déradicalisation et de désengagement. On entend les deux termes. Est-ce que vous pouvez me préciser un petit peu ?
Oui, on a surtout parlé de déradicalisation au début de ces programmes, il y a quelques années. Aujourd'hui, on emploie plus le terme de désengagement. La déradicalisation, c'est assez clair, hein, c'est l'inversion d'un processus de radicalisation. Donc, il s'agit de changer ce qu'il y a dans la tête des individus pour les déradicaliser, c'est-à-dire faire en sorte que des individus radicaux rentre dans le droit chemin et ne soit plus radicaux, n'ait plus une vision du monde radicale. On voit bien que l'objectif est extrêmement élevé, que ça peut poser éventuellement aussi des questions éthiques, mais on voit aussi que c'est très difficile à vérifier. Ça pose la problématique de la taquilla, c'est-à-dire des personnes qui feraient semblant d'avoir changé alors qu'en réalité, ils n'auraient pas changé. Le désengagement est beaucoup plus concret, beaucoup plus pragmatique. Il s'agit de vérifier qu'une personne respecte ses obligations judiciaires, n'enfreint plus la loi et rompt avec le groupe violent dans lequel cette personne évoluait.
Je vous propose qu'on aille directement en Autriche sur un cas concret. La question est revenue au cœur des débats après l'attentat du 2 novembre dernier. Ce soir-là, un homme de 20 ans a tué par balle 4 personnes. Il avait fait de la prison pour avoir tenté de rejoindre la Syrie et depuis sa sortie, il suivait justement un programme de déradicalisation. On écoute le reportage de notre correspondante Céline Béal.
L'association s'appelle, dans sa forme longue, DERAD, Prévention de l'extrémisme et démocratie. Elle occupe un petit bureau dans une grande rue commerçante de Vienne. Sur un tableau blanc, des inscriptions en arabe. Sur les bureaux, des Corans. Moussa Al-Hassandio porte, à la manière des musulmans pratiquants, une barbe et un pantalon large qui s'arrête au-dessus de la cheville. Ses lunettes de soleil miroir cachent son regard. Moussa Al-Hassandio dirige une équipe de 14 personnes. Elles interviennent auprès d'une centaine de radicalisés, en prison ou en liberté conditionnelle, selon les recommandations de la justice. Leur objectif, déconstruire les idéologies radicales via un dialogue pédagogique. L'association DERAD s'est retrouvée au cœur des débats en novembre dernier. Quelques jours après l'attentat de Vienne, le public prenait connaissance du profil du tireur. Comment un jeune homme a-t-il pu se radicaliser à ce point sur le sol autrichien? Et surtout, alors qu'il était connu des autorités et suivi par une association de déradicalisation. L'équipe de Moussa Alassane est accusée d'avoir sous-estimé le danger qu'il représentait. Il s'en défend.
Notre référent avait remarqué qu'il oscillait entre plusieurs idéologies extrémistes. Et c'est pourquoi nous n'avons jamais considéré que sa déradicalisation était terminée. Mais certaines informations ne nous ont jamais été communiquées. Nous ne savions pas qu'il avait essayé d'acheter une arme. L'autre information qui nous a manqué, c'était qu'il avait tenté d'acheter des munitions en Slovaquie. Les autorités le savaient, mais elles ne nous l'ont pas dit. Ni à nous, ni au ministère public. Alors que tout cela aurait été suffisant pour révoquer sa liberté conditionnelle et l'emprisonner, comme il a été fait dans d'autres cas similaires. Au final, les différentes institutions n'ont pas suffisamment communiqué entre elles et les informations transmises depuis l'étranger n'étaient pas suffisamment fiables et d'autres problèmes dans le genre.
Après l'attentat, le gouvernement a pris une série de mesures pour tenter de rectifier le tir. Un nouvel arsenal législatif pour lutter contre le terrorisme d'inspiration religieuse, 125 millions d'euros investis pour mieux équiper police et services de renseignement, et 8 millions annoncés pour la prévention. Les différents acteurs du domaine, dans les écoles, les clubs de sport ou les communes par exemple, doivent être mieux coordonnés. Moussa Alassane Diop, lui, n'a pas encore vu ses moyens augmenter.
Nous, on n'en a pas vu la couleur. Nous n'avons pas non plus reçu les moyens budgétaires que nous espérions pour pouvoir, par exemple, embaucher nos référents pour sécuriser les emplois. La situation reste difficile sur ce plan. Certes, il y a depuis un nouveau programme pour les personnes radicalisées qui a été créé, mais sans nous, bizarrement, même s'il y a eu une tentative pour nous inclure au début. On a su ensuite que deux personnes que nous suivions et qui étaient partis dans ce nouveau projet ont fini par récidiver quelques mois plus tard et se sont retrouvés en détention préventive. Donc je ne dirais pas que les choses se sont améliorées.
9 mois après l'attentat, la République autrichienne n'a pas encore mis de l'ordre dans les structures qui luttent contre la radicalisation dans le pays. Et pendant ce temps, les jeunes continuent de se radicaliser, préviennent les spécialistes.
Céline Béal à Vienne. Marc Ecker, on entend dans ce reportage la concertation des institutions est fondamentale. En France, il y a eu des réformes sur ce plan. Est-ce qu'on fait des progrès?
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le programme de désengagement et de déradicalisation, c'est un élément dans un écosystème beaucoup plus large qui permet d'essayer d'éviter la récidive d'individus qui sortent de prison. Et ces différents éléments, on peut dire vraiment de manière simpliste, qui a d'un côté les travailleurs sociaux, les psychologues, les travailleurs qui sont en lien sur les questions idéologiques, donc des référents religieux, culturels, etc., qui sont dans les programmes. Ensuite, on a le ministère de la Justice qui exerce son rôle de contrôle, parce qu'on est dans le cadre d'obligations judiciaires quand des individus suivent ces programmes. Et puis, il y a évidemment le ministère de l'Intérieur et les services de renseignement qui sont dans la surveillance. Et chacun joue son rôle dans cet écosystème et il s'agit de faire en sorte qu'il y ait le moins de friction possible entre ces différentes entités qui ont des cultures professionnelles différentes. Visiblement, dans le cas autrichien, il y avait tellement de friction que ça aboutit à un cas de récidive.
En France, ça se passe mieux?
En France, il y a des frictions aussi. Je l'ai décrit dans mon rapport, la djihadiste un jour, djihadiste toujours. Mais l'objectif, c'est justement d'essayer de faire en sorte que les différents acteurs se parlent de plus en plus, se comprennent de plus en plus et qu'il n'y ait plus de trous dans la raquette.
Dans votre livre, vous déplorez que l'Union européenne reste un acteur mineur dans ses actions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses?
Je ne sais pas s'il faudrait que tout ça se passe au niveau de l'Union européenne. En fait, l'Union européenne a un rôle de conseil. Il y a notamment au niveau européen un Radicalization Awareness Network, donc un réseau européen de praticiens et aussi de chercheurs. Ces praticiens échangent entre eux, y compris ceux qui sont en charge du désengagement et de la déradicalisation. Donc, ils partagent leurs bonnes pratiques, mais aussi leurs échecs pour essayer de s'améliorer.
On va se rendre tout de suite à Londres, en fait, pour écouter un deuxième témoignage avant de détailler le reste des sujets. La capitale britannique a connu une série d'attaques terroristes entre 2017 et 2019 à peu près. En novembre 2019, un jeune homme a poigné poignardé 5 personnes, dont 2 sont mortes. Et c'était lors d'un événement sur la réhabilitation des anciens prisonniers organisé par l'Université de Cambridge. Or, cet homme sortait de prison. Il avait été condamné en 2012 pour avoir fomenté un attentat. Il suivait lui aussi les programmes de déradicalisation. On écoute le reportage de Marie Billon.
Usman Khan était vu comme une preuve de succès des différents programmes de réhabilitation. Mais immédiatement après l'attentat qu'il a commis, la question a été posée aux autorités. Comment n'ont-elles pas vu venir cette attaque ? Rajan Basra est chercheur au Centre international de l'étude de la radicalisation au sein de l'Université King's College de Londres.
Quand il a été libéré en 2018, Usman Khan faisait l'objet d'un suivi rapproché. Il avait l'obligation de participer au programme d'accompagnement rupture et désengagement. Il était à la recherche d'un emploi et d'un logement. Mais ce qu'on a appris après coup, c'est qu'il avait été libéré automatiquement à la fin de la période de sûreté. Depuis, la loi a été modifiée. Un prisonnier ne peut être libéré qu'avec l'accord du bureau des probations, c'est-à-dire qu'un comité doit s'assurer qu'il ne représente plus un danger pour le public. Donc, des mesures ont été prises depuis cet attentat, mais il y a toujours des personnes qui tenteront de tromper le système.
Car Usman Khan avait participé aux 2 programmes de déradicalisation officiels. Tout d'abord, au programme Healthy Identity, Identité saine, créé en 2010, proposé en prison sur la base du volontariat.
Ce programme implique des sessions en tête-à-tête pour tenter de comprendre pourquoi la personne décide de commettre ses crimes, de quel genre d'aide elle a besoin, mais aussi pour travailler sur le plan émotionnel et mettre en valeur les aspects positifs de sa personnalité, sa capacité à faire ses propres choix. Il y a même des séances de méditation, de pleine conscience.
Un des problèmes, dit Rajan Basra, c'est qu'au sein des établissements pénitentiaires, les prisonniers trichent, un peu comme aux examens, se passant les questions et les réponses. Le second programme officiel s'intitule « Rupture et désengagement », le DDP. Il a été créé en 2016. Ce programme est obligatoire pour les personnes sortant de prison. Elles sont suivies par un mentor qui les aide surtout, dit Rajan Basra, pour des questions très terre-à-terre, trouver un emploi, un lieu de vie, se réinsérer dans la société finalement.
Les superviseurs doivent avoir assez d'intelligence et de sensibilité pour savoir quand pousser le candidat, quand lui laisser plus de liberté. Il doit aussi être un expert des questions religieuses. Et trouver ce genre de profil, c'est très difficile, surtout quand les gens sont mal payés.
Et justement, Ismaël Lee South, fondateur de l'association Salman Project, est très critique sur la qualité de ses superviseurs. Certains sont culturellement ineptes et incompétents, dit-il.
Certains de ceux qui ont perpétré les 2 attaques de London Bridge en 2017 et 2019 faisaient partie du groupe Al-Mouajiroun. Nous, on sait qu'ils apprennent à leurs membres le takir, c'est-à-dire apparaître déradicalisé, libéral. Mais ce n'est qu'une façade pour pouvoir poursuivre des activités extrémistes en sous-main.
La deuxième faille qu'Ismaël Lee South identifie dans les programmes officiels, c'est la crédibilité des mentors.
Nous faisons appel à d'anciens extrémistes, d'anciens radicaux pour que les personnes qu'on suit puissent s'identifier à eux. Nous travaillons aussi avec des érudits de l'islam qui peuvent discréditer les interprétations religieuses erronées soutenant des visions radicales. Nous collaborons avec des personnes crédibles pour le public visé, des gens qui gardent leur identité islamique, mais qui sont aussi britanniques et qui arrivent très bien à équilibrer les 2.
Il est difficile d'évaluer l'efficacité des programmes officiels et communautaires, car les évaluations des uns comme des autres ne sont pas toujours rendues publiques. Mais selon le chercheur Rajan Basra, qui connaît le Salam Project, les initiatives communautaires ont en effet un rôle à jouer dans les efforts de déradicalisation.
Beaucoup de choses dans ce reportage de Marie Billon à Londres. Il est beaucoup question, notamment, Marc Ecker, du profil des acteurs de la déradicalisation, du désengagement, de leur formation. Difficile de trouver des gens qui ont toutes les compétences requises. Sur quoi est-ce qu'il faut mettre l'accent ?
Oui, il est très intéressant ce reportage et on voit bien que quand une personne récidive, il faut vraiment essayer de comprendre pourquoi cette personne a récidivé. Quels étaient les moteurs de sa radicalisation et de son passage à l'acte, mais aussi quels étaient les intervenants du programme qui ont travaillé à ses côtés. Quel est ce type de programme ? Parce qu'en fait, on dit toujours la radicalisation, le désengagement, mais en vérité, il y a énormément de programmes différents, plus ou moins sérieux, comme dans tous les domaines, plus ou moins intensifs. Il y a des programmes en prison, il y en a hors de prison. Et par exemple, le programme que j'ai évalué, il peut aller jusqu'à un suivi de 20 heures par semaine par des intervenants de différentes disciplines pendant plusieurs mois, voire quelques années. Donc c'est un suivi très intensif et encore une fois, qui s'ajoute à tout le reste de l'écosystème. Et un certain nombre de problèmes qui ont été évoqués dans le reportage, on les a retrouvés en France, donc la problématique de la sélection des intervenants, la difficulté de trouver des spécialistes, notamment sur les questions d'idéologie, la difficulté ensuite de bien les payer, avec un turnover élevé pour différentes raisons, mais notamment la question financière. Donc vraiment, il est important de rentrer dans le détail à chaque fois qu'il y a un cas de récidive pour analyser les raisons de ce nouveau passage à l'acte.
Et c'est un petit peu les mêmes questions qui se posent sur la prévention, et notamment à qui est-ce qu'on s'adresse ? Parce qu'il y a différents profils de djihadistes potentiels et donc peut-être différentes approches pour répondre à ça.
Alors la prévention, c'est un tout autre champ. Et on a par exemple des programmes de prévention primaire qui s'adressent littéralement à tout le monde. Vous pouvez avoir des programmes de sensibilisation dans les écoles, par exemple. Vous avez par ailleurs des programmes de prévention dits secondaires qui sont beaucoup plus ciblés. Par exemple, quand on se rend compte que dans un quartier donné, il y a beaucoup plus de cas de radicalisation, de départ pour la Syrie, par exemple, il y a quelques années, à ce moment-là, vous pouvez avoir un programme spécifique pour un quartier donné. Et puis, il y a la prévention dite tertiaire, et là, on est vraiment dans la prévention de la récidive, donc c'est plus le désengagement. Il faut bien distinguer les trois, et ce ne sont pas nécessairement les mêmes intervenants, d'ailleurs, qui travaillent sur ces trois sujets. Et la prévention primaire, ça peut être des actions extrêmement larges. Par exemple, en France, vous avez un comité interministériel dit de la prévention de la délinquance et de la radicalisation, le CIPDR, qui finance des pièces de théâtre en lien avec le djihadisme, qui vont être montrées à des collégiens, à des lycéens. Et ça, c'est considéré comme une action de prévention primaire parce que ça va introduire un dialogue sur les questions de radicalisation et de terrorisme. Et ça peut permettre, effectivement, d'avoir une action préventive, mais très en amont.
On a aussi plusieurs conceptions du phénomène, islamisation de la radicalité ou radicalisation de l'islam. Pourquoi on oppose ces deux idées ?
Ah, ce sont deux conceptions très différentes de la radicalisation. Dans un cas, on considère que le facteur religieux est essentiel et qu'il y a eu une radicalisation de l'islam, avec notamment le développement du salafisme. Et le salafisme créerait une voie de passage vers le djihadisme. Et dans l'autre cas, en fait, on explique qu'il y a déjà une radicalité sous-jacente et que c'est l'offre radicale du moment, c'est-à-dire l'offre djihadiste, qui va emporter la mise, mais que les personnes qui se radicalisent auraient très bien pu, dans les années 70-80, se radicaliser avec des groupes d'extrême gauche comme Action Directe ou autres.
Mais ça influe sur la prise en charge, cette analyse des choses.
Ça influe évidemment sur la prise en charge. En réalité, la prise en charge, elle est pluridisciplinaire. Donc vous allez avoir un pôle social qui va travailler vraiment sur le fait de retrouver un emploi, de retrouver une forme de stabilité. Un pôle psychologique, parce qu'il y a quand même beaucoup d'individus qui ont des vrais troubles psychologiques et il faut les traiter. Et puis un pôle idéologique qui va vraiment travailler sur la question de la vision du monde et sur la question de la perception de l'islam.
Un dernier mot, Marc Ecker. Votre livre, La guerre de 20 ans, est paru peu avant la reprise du pouvoir par les talibans en Afghanistan. Vous le dites dans l'ouvrage, le djihadisme est loin d'avoir disparu et il va même encore porter des coups. Quel impact peut avoir le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan ?
Il peut en avoir beaucoup et je pense que ça va avoir un impact et il faut vraiment surveiller de très près la situation. Un impact majeur, à mon avis, va justement être idéologique, c'est-à-dire que les talibans vraiment ont créé un effet de souffle dans la mouvance islamiste générale. D'ailleurs, c'est pas que dans la mouvance djihadiste, ils ont été félicités aussi bien par des groupes dits islamo-nationalistes que par des groupes vraiment liés à la mouvance Al-Qaïda, et ce, sur des théâtres très différents de l'Afrique en passant par la péninsule arabique. Donc je crois vraiment qu'il va y avoir une nouvelle dynamique et que ça va renforcer le moral des groupes djihadistes. Maintenant, l'histoire n'est absolument pas écrite et on voit que les talibans essayent aussi de donner une bonne image et d'expliquer qu'ils vont rompre avec le djihadisme international. Mais c'est quand même une victoire du djihadisme local et ils vont mettre en place un émirat. Ils l'ont dit, c'est leur projet et ils vont le faire.
La guerre de 20 ans, co-écrit avec Elie Tenenbaum, c'est paru aux éditions Robert Laffont et je signale que vous avez reçu pour cet ouvrage le prix du livre de géopolitique 2021.
Merci beaucoup.
Accent d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. À la réalisation, Françoise Grelot. On se retrouve demain.